귀.
라디오 풋 인터내셔널 아니 가스니에.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI et comme chaque jour pour vous parler de football et commencer par le premier des deux rendez-vous entre Merengue et Blaugrana. Ce sera ce soir à Madrid, un classico pour savoir qui disputera la finale de la Coupe du Roi d'Espagne. Le Real Madrid qui joue à domicile et est sur une dynamique de victoire se retrouve face au FC Barcelone dont l'atout maître Messi semble encore plus fort chaque jour et qui a remporté les quatre dernières Copa del Rey, mais qui est favori. Un match en tout cas qui donnera le la de l'autre classico dans 72 heures de confrontation prometteuse, comme toujours. Le PSG qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, une équipe qui, sans ses stars, conserve son intensité, le cap sur ses objectifs. Avec une évidence, Thomas Tuchel fait tourner, mais il a le choix et un banc aujourd'hui de grande qualité. La fête du football féminin dans 100 jours en France, 24 des meilleures équipes mondiales, 52 matchs organisés dans des villes souvent un peu oubliées de la carte et de ce genre d'événements, mais les places se vendent comme des petits pains, gros succès pour cette compétition, en tout cas gros succès en perspective. Bonjour Dominique Sévrac.
Bonjour Annie, la femme est l'avenir de l'homme, vous le savez.
vous savez toujours rebondir avec vous, c'est merveilleux. Dominique Sévrac du Parisien, mais qui nous parlera aussi, j'imagine, du PSG et du Classico. Étienne Moati, bonjour.
Bonjour, moi j'ai pas de phrase aussi définitive que Dominique, mais on va quand même essayer d'exister.
Alors Étienne Moati du journal L'Équipe, et puis Shérif Guémour de SoFoot, bonjour Shérif.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Habillé en argento-brésilien, pourtant ils s'entendent pas beaucoup, ni sur les terrains, ni en dehors.
Aujourd'hui, j'ai décidé
d'être. Vous êtes pour la paix des peuples.
Voilà, je suis œcuménique.
Hugo Moissonnier, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Radio Foot, c'est parti.
Semana de clásicos en el Chile.
Hola amigos, clásico tremendo el que
tenemos
se viene.
Que hablar de Copa del Rey se define.
Goes between Ronaldo and David Beckham. And
there is Henry. Can he bounce back for Barca? Oh, yes, he can. Ramos gives Real Madrid a lifeline.
It's left the goal.
Benzema qui peut glisser ce ballon à Özil et but.
And a piqué. Wonderful goal from Karim Benzema.
Minuto dos de partido. Minuto dos de partido. Raúl González.
Ronaldinho at his very best.
Marca Roberto Carlos.
Unstoppable.
Ojo Ronaldo.
El balón de nuevo para Zidane, ahí está Zidane, quiere colgar el cuero.
¡Magic!
¡Golazo! Sí, 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 de Barcelona. ¡Qué golazo, Leo! ¡Qué golazo, Messi!
Jour de Classico et donc jour de fête sur la planète football, la pelouse de Santiago Bernabéu, cadre d'un nouvel affrontement de ce football espagnol. Le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouveront à 21h, mais ils se retrouveront aussi dans 72 heures pour un deuxième Classico sur le même terrain. Deux enjeux différents, cependant, ce soir, retour de la demi-finale de la Coupe du Roi. Alors, elle s'est passée il y a déjà longtemps, on allait presque l'oublier, ce match aller. Pourtant, c'était le 6 février et il s'était terminé, on s'en souvient quand même, sur le score de 1-1, but de Benzema et but de Malcolm pour les Blaugrana. Alors que samedi, et on y viendra en fin de discussion, ce sera en pensant au titre de champion de Liga. Alors, deux classicos, des classicos. Hugo, parfois on en a comme ça en série.
En 2011, vous vous souvenez, quelques mois après la fameuse Manita, celle de l'automne 2010, le 5-0 pour le Barça de Guardiola face au Real de Mourinho. Tout le monde s'en souvient de cette rencontre. Quelques mois plus tard, on avait eu quatre classicos en à peine quelques jours, en plein printemps. On en avait eu en championnat, on en avait eu en Coupe du Roi également, et on avait eu en demi-finale de Ligue Ligue des Champions.
Ça avait presque fait une overdose de Classico.
Peut-être
en tout cas.
Non, une overdose, d'autant que l'ambiance avait été un petit peu.
Oh, c'était un peu.
Un petit peu tendue. Elle s'était tendue au fur et à mesure que les matchs s'enchaînaient. Le Real avait remporté la finale de la
c'était
Coupe du Roi.
C'était moins festif.
Alors ça, c'était bien pour le Real, mais surtout le Real avait perdu la demi-finale de Ligue des Champions qui opposait les deux clubs et la défaite, notamment à l'aller au Bernabeu 2-0, avait exacerbé véritablement les tensions et notamment sur les bancs de touche puisque Mourinho était un peu sorti de ses gonds en pestant contre un arbitrage trop favorable au Barça, pestant contre l'UEFA notamment. Et avant le match retour, c'était le souvent placide Pep Guardiola qui était lui-même sorti de ses gonds en utilisant même des termes assez durs contre Mourinho et son manège devant les médias.
Alors les statistiques récentes, parce qu'évidemment il y a à peu près autant de victoires que de défaites, je crois que le nombre de victoires est encore à l'avantage du Real Madrid, mais pour peu de temps peut-être. En tout cas, est-ce que jour de Classico, Dominique, c'est un jour différent pour les amoureux du football?
Oui, c'est un jour de fête, c'est le match encore
qu'on ne veut pas manquer
en Europe. Alors je me suis demandé si le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus avait changé quelque chose. Moi je crois pas en fait, je crois qu'on a toujours envie de voir ce match-là. Ce soir il y a des matchs en France de coupe, notamment Lyon contre Caen. Bah on va regarder quand même le Classico parce que c'est un match à part, c'est un match avec des stars, c'est un match technique, c'est un match avec de la passion. C'est dommage de rater dans une saison le feuilleton du Classico. Donc oui, c'est un jour de fête.
Et vous regarderez les deux?
Oui.
Bon, mais quand on est amoureux du football. Étienne?
Oui, évidemment, les classicos ont existé avant l'émergence de Messi et de Ronaldo. Mais malgré tout, quand même, pendant toutes ces années où Messi a évidemment été au Barça et Ronaldo au Real, on avait là les deux joueurs de
les
deux meilleurs joueurs du monde.
Je crois que c'est le troisième sans eux.
Voilà, les deux meilleurs joueurs du monde, donc très réguliers, qui s'affrontaient quasiment donc l'un face à l'autre. Peut-être on se disait à ce moment-là, peut-être déjà pour l'attribution du Ballon d'Or, donc la décision entre les deux. Donc ça ajoutait quand même quelque chose d'assez sublime donc à ces matchs-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être la répétition donc, de ces affrontements, peut-être un tout petit peu l'absence de Ronaldo, et puis des objectifs peut-être pour le Barça qui sont un peu différents, où on les sent moins motivés sans doute par cette Coupe du Roi. Voilà, fait que c'est un tout petit degré en moins.
Shérif, Classico ou pas Classico?
Ah oui, bien sûr, non, mais c'est les deux dates avaient été cochées de toute façon, mais en général, ça vaut le coup. On peut avoir des matchs fermés. Mais même dans les matchs,
il y a toujours une surprise.
Ouais, il y a toujours un intérêt. De toute façon, ça peut être une ouverture de Kroos, un dribble de Messi, un but de Benzema. Et puis pour les classicos de cette année, il y a quand même des champions du monde français et puis des finalistes croates. Donc la qualité est là. Mais je crois que vraiment en densité pour ce match-là, notamment l'édition de ce soir, je me demande si les autres championnats peuvent offrir une affiche avec autant, entre guillemets, de champions du monde, de finalistes, ou alors de joueurs top niveau qui ne sont pas champions du monde, comme Messi.
Non. De toute façon, il n'y a pas d'affiche, ni Liverpool, Manchester City, ni Dortmund, Bayern, ni PSG-OM, ni Juve, Naples, non remplacés pour l'instant, ou d'autres matchs, cette affiche-là.
Le vrai classico, comme dirait Alejandro Valente.
En Argentine.
Même l'Argentin, River Boca, n'offre pas, offre peut-être autant d'intensité, mais en tout cas pas autant de stars.
Hugo. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se prolonge au-delà du football, puisqu'il y a également des classicos en basket. Récemment, en finale du championnat espagnol, il y a eu un classico Barça-Real avec une énorme polémique d'arbitrage sur laquelle je ne vais pas forcément en revenir. Ce n'est pas Radio Basket International, après tout. Ce qui est sûr, c'est que cette erreur elle a été défavorable au Real Madrid, qui en retour a menacé, en tout cas, aurait étudié la possibilité de quitter le championnat espagnol. C'est dire les proportions que ça a pu prendre. Le championnat espagnol de basket, je rassure nos auditeurs.
Mais c'est un peu, c'est aussi ça, c'est classique autour du classico, Étienne, d'entretenir en plus entre les maisons, entre guillemets, entre les présidents, entre les dirigeants, une espèce de bagarre en dehors du terrain.
Mais je crois qu'il n'y a pas besoin de l'entretenir, contrairement à certains classicos qu'on a rebaptisés quand même finalement classiques, comme en France, où c'était finalement une opération de marketing entre le PSG et l'OM. Entre le Barça et le Real, il n'y a rien d'inventé, il n'y a rien de créé de toute pièce, il y a une véritable hostilité historique entre les deux villes, entre les deux clubs. Et je dirais qu'aujourd'hui...
Les identités elle aussi régionales. Hein.
Elle s'est presque, en effet, renforcée aujourd'hui avec l'indépendantisme en Catalogne qui a marqué beaucoup, beaucoup de points, donc qui agace donc, tout le reste de l'Espagne et beaucoup à Madrid.
Et qui s'était immiscé dans cette équipe, on s'en souvient, hein, les prises de position de Guardiola, plus ou moins de Piqué.
Absolument, et donc c'est véritablement à l'aune aujourd'hui de ces événements-là que, en tout cas en Espagne, on juge ces matchs-là. Donc il y a toujours autant d'intensité, on va dire, culturelle et politique.
Pas besoin de motiver les joueurs pour un truc comme ça. Ils sont au rendez-vous, donc tout peut arriver. Après, il y a la personnalité des entraîneurs. C'est sûr que Solari, Valverde, c'est un peu
on va
moins...
Y venir.
Voilà, ouais.
On va y venir à ces entraîneurs. Ouais. Alors, entre deux classicos, faut-il choisir? Évidemment non, nous dit Santiago Solari, l'entraîneur du Real qui reçoit donc, mais qui se dit concentré sur un seul objectif, du moins à 7 heures.
Nous sommes uniquement concentrés sur le premier classico. Nous avons éliminé plusieurs adversaires pour en arriver là. Nous avons bien joué à l'aller. C'était un bon match et notre objectif, c'est de franchir cette demi-finale. Nous ne pensons à rien d'autre. Gareth et les autres joueurs sont unis par la même volonté de gagner face au Barça.
Con el objetivo claro de ganar mañana. Alors évidemment, ça peut se résumer à match après match, hein, partido después de partido. Avantage de jouer à domicile, ce match retour de la Coupe du Roi, selon vous, Dominique?
Non, je crois pas. Je crois que aujourd'hui, l'UEFA envisage de supprimer l'histoire du but à l'extérieur, la valeur du but à l'extérieur en Coupe d'Europe. Je pense que toutes les équipes jouent pour jouer, pour gagner. Donc il n'y a plus d'histoire d'avantage. Je ne crois pas à ça, moi.
Non. Le public, Étienne, quand même, un Santiago Bernabéu, alors on sait que c'est pas toujours le volcan éruptif, mais quand même, même s'il y a beaucoup de touristes ou de curieux, il y a quand même une ambiance, surtout là pour un match éliminatoire.
Je pense qu'il y a toujours un avantage, il suffit de regarder les statistiques des rencontres entre les deux clubs. Et je pense quand même qu'à domicile, le Real gagne quand il est chez lui, la plupart du temps.
En championnat, il a pu gagner depuis 2014.
Oui, mais donc, si on regarde donc l'histoire du football espagnol, évidemment qu'il y a un avantage. Et puis surtout l'avantage pour le Real ce soir, c'est qu'il a fait un match nul donc au Camp Nou. Donc il part avec un avantage. Et puis surtout, c'est peut-être le titre aujourd'hui le plus simple à gagner pour le Real Madrid, qui a quand même besoin d'un titre à la fin de la saison. Cette Coupe du Roi, c'est celle qui lui tend les bras. Ce sera évidemment plus compliqué en championnat parce que même s'ils venaient à battre le Barça, ça veut pas dire qu'ils vont être champions. Pour la Ligue des Champions, même s'ils l'ont gagné trois fois de suite, c'est forcément compliqué. Il y a beaucoup d'adversaires. Donc, cette Coupe du Roi, c'est l'objectif numéro un.
Hugo?
Oui, juste pour compléter, le Real, donc, il ne gagne plus à domicile en championnat ce Classico depuis 2014. Et si on met à part la claque reçue lors du premier Classico de la saison, le 5 buts à 1, une autre manita, c'était en octobre. Le Real ne perdait plus depuis 2015 sur la pelouse du Camp Nou face au Barça.
Shérif.
La rencontre de ce soir est ouverte. Ceci dit, après, c'est à double tranchant. Donc, pour jouer à domicile, c'est si jamais le Real se fait éliminer. Et là, par contre, voilà. Là, il y a une crise ouverte. Parce que c'est le public à domicile, surtout s'il perd.
Les enjeux sont similaires entre ces deux classicos pour vous finalement, Étienne? On sait que c'est un pour la Coupe du Roi, l'autre c'est en championnat, mais est-ce qu'il y a quand même un enjeu similaire, c'est-à-dire gagner ou gagner?
Moi, je dirais pas complètement, parce qu'évidemment pour le Barça, être éliminé de la Coupe du Roi.
Qu'il gagne depuis 2015. Voilà, hein.
Ce serait pas un drame absolu. L'objectif du club, c'est évidemment d'être champion d'Espagne. Ils sont plutôt bien partis pour ça. Et puis surtout, viser la Ligue des Champions qui commence à leur échapper depuis un petit peu trop longtemps à leur goût. Je peux imaginer que pour le Barça, les deux objectifs, c'est Liga et Ligue des Champions, et que la Coupe du Roi, s'il venait être éliminé, ce serait pas un drame.
Même si, Dominique, on a un Messi en super forme et qui dit « je veux tout gagner cette saison ».
Oui, il est bien. Hein. Il a marqué quelques buts le week-end dernier. Hein.
Contre Lyon aussi, il a marqué
juste
beaucoup.
Un triplé. Oh là
là. Non, mais contre Lyon, c'est un Barcelone qui était pas en réussite devant le but, parce qu'ils ont quand même été ultra dominants et ils sont passés à côté. Mais oui, non, Étienne a raison, le seul truc, c'est d'être éliminé pour le Barcelone par le Real Madrid, c'est ça qui fait tâche un peu, quoi. Donc je pense que si Barcelone peut tout gagner, la Coupe du Roi, le championnat et la Ligue des Champions, voilà, c'est pas mal aussi, quoi. Puis je crois pas non plus aux joueurs qui font des compartiments dans leur tête sur les compétitions.
Pas un classico.
Bah oui, donc c'est pour ça. Je pense que le Barcelone sera à fond ce soir pour gagner,
comme ils seront à fond pour battre le Real.
Ce week-end pour battre le Real. Et puis pour le Real, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a même l'Atlético de Madrid devant eux en championnat. Donc c'est évidemment une grosse semaine pour tout perdre pour le Real.
Je ne serais pas aussi affirmatif que toi, parce que j'étais en Espagne avant le match aller. Franchement, il y avait un débat à Barcelone, savoir est-ce qu'il fallait faire jouer Léo Messi, etc. Donc, on parlait quand même d'un classico, on parlait quand même d'un match dans les derniers tours de la Coupe du Roi, et la question s'est posée, très sérieusement.
Mais
il y avait un débat.
Parce qu'il pensait à la Coupe d'Europe.
Voilà, donc ça veut bien dire que pour le FC Barcelone, c'est pas un objectif numéro un cette saison.
Ouais, ouais. Mais les mecs seront là. S'ils peuvent gagner, ils gagneront.
Alors, on va s'arrêter sur Hugo. Vous vouliez rajouter?
Ah oui, non, juste préciser que Messi n'en a débuté aucun pour l'instant de Classico cette saison. Donc, il y aura peut-être quand même des petites démangeaisons ce soir.
C'est l'homme
pour
qui
briller.
Arrive.
Ah, il a planté trois fois dimanche.
C'est le meilleur buteur de l'histoire des Classicos.
Alors justement, l'état des forces sur le plan sportif de ces deux équipes. Venons-y. Le Real Madrid. Justement, il y avait eu cette hémorragie terrible et ce 5-1 qui avait entraîné le départ de Julien Lopetegui comme entraîneur au mois d'octobre dernier. Depuis, le Real peu à peu se reconstruit, revient dans le jeu avec Solari, alors que le Barça est peut-être, je ne sais pas, moins flamboyant, Dominique, c'est ça qu'on dirait ?
Oui, effectivement.
Sur
ça
une
reste...
dynamique un petit alors, peu différente.
Attention, hein, on parle on compare par rapport à une période il y a quelques années où ils étaient champions d'Europe, où il y avait Neymar qui était encore là. On parle par rapport à ce qui était peut-être une des meilleures équipes de l'histoire. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de dire qu'aujourd'hui, Barcelone, c'est un peu moins bien, que Busquets est vieillissant, que l'arrivée de Frankie de Jong fera du bien l'année prochaine, que Umtiti reprend seulement la compétition. Umtiti qui est un super défenseur qui s'est bien fondu dans le moule. Voilà, Ter Stegen reste un gardien au-dessus du lot, peut-être le meilleur du monde actuellement. Évidemment que Messi est extraordinaire. Bon, Suarez parfois rate un peu plus ses matchs. Coutinho ne s'est pas intégré. Dembélé, il y a des doutes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut se permettre de à la marge peut-être de dire que c'est plus grand Barça.
Est-ce que sont sur deux dynamiques différentes, Étienne, ces deux équipes en ce moment, aujourd'hui, jour de Classico?
Je ne suis pas si persuadé que ça, non. Parce que finalement, quand on regarde donc, leur saison en ce moment, le Real n'est pas devenu irrésistible non plus.
Ils ont enregistré une défaite récemment qui nous a bien embêtés.
Le Barça, c'est vrai, c'est le constat qu'on a fait Dominique est plutôt juste. C'est vrai qu'il y a des failles dans cette équipe offensivement. À part Messi, vieillissant, je sais pas, mais à part Messi, parce qu'on peut pas dire que Coutinho ou Dembélé soient des joueurs vieillissants, mais en tout cas qui offrent pas toutes les garanties aujourd'hui. Donc, moi, j'ai plutôt le sentiment que ce sont des équipes qui, en ce moment, sont relativement proches l'une de l'autre. Mais je vois pas de courbes qui sont en train de se croiser.
C'est un club qui a pas digéré sportivement et politiquement le départ de Neymar. C'est-à-dire que sportivement, ils n'ont pas...
Ça va quand même, ils sont en tête de la Liga, ils sont qualifiés en Ligue des Champions.
Oui, mais ils
donc,
n'ont pas avec Dembélé, Coutinho, investi
l'argent... C'est des crises que tout le monde aimerait avoir quand même, celle-là.
Et politiquement, on parle chaque semaine une espèce d'arlésienne du retour de Neymar, ce qui est une espèce de fantasme qui n'arrivera pas.
Il n'arrivera pas, vous êtes sûr?
Oui, il peut partir du PSG, mais pas...
À son anniversaire, il a convoqué Dominique pour lui dire, écoute, toute ma vie, je la ferai au PSG, puis à Paris. J'épouserai une Parisienne... Et je ferai des petits-enfants à Paris aussi.
C'est vrai.
On y viendra tout à l'heure au Paris Saint-Germain, il y a Neymar, Dominique, vous inquiétez pas. Shérif, sur cette dynamique, ils sont sur le même ressort?
À mon avis, il y a deux points communs. Les deux équipes conservent un potentiel offensif impressionnant. Ils le démontrent en Ligue des Champions, en championnat et tout. Après, il y a des ratés.
Il y a des buts.
Un peu ce qu'a fait le Barça quand ils sont venus jouer à Lyon. Mais on sait très bien qu'ils auraient pu gagner 5-0. Il n'y en a pas eu. Mais bon, les occasions sont là.
Ouais.
Par contre, ils ont un point commun qui est beaucoup plus problématique, c'est en défense. Quand on regarde les deux matchs qu'ils ont fait, le Barça qui allait jouer au FC Séville et le Real qui allait jouer à Levante, ils concèdent un nombre impressionnant d'action. Ces deux équipes qui sont plus friables défensivement et du coup qui sont plus prenables, et on va le voir notamment en Ligue des Champions, même s'ils s'en sortent. Et là par contre, pour en venir au gros Real qu'on a connu massif de Benzema, ou le Barça un peu plus il y a un peu plus longtemps, ils ont plus du tout ces garanties défensives qu'ils avaient avant. C'est pour ça qu'à la limite on va peut-être avoir un match de fou ce soir, parce qu'il y a quand même
Je serais pas
après ça se stabilise.
Je serais pas aussi affirmatif que toi sur ce.
Est-ce que
concernant
tu as
le Barça, moi concernant
ouais,
alors, le Barça,
ça va mieux. Alors j'ai
pour avoir vu presque tous leurs matchs cette saison, j'aime bien cette équipe, je dois l'avouer. Je trouve qu'au contraire, ils ont retrouvé une assise défensive.
Voilà.
Aujourd'hui, Gérard Piqué, c'est plus du tout le même joueur, c'est-à-dire qu'il est revenu à un niveau extrêmement impressionnant. Il est très très bon. Clément Lenglet s'est parfaitement intégré donc, dans cette défense et c'est une équipe qui prend moins de risques qu'avant. Donc est beaucoup plus équilibré, donc elle prend peu de buts. D'ailleurs, on l'a vu contre
lui. Beaucoup d'occasions.
Oui, pas tant que ça. Donc, paradoxalement, je trouve qu'aujourd'hui le Barça est devenu une équipe plus ordinaire à part Messi, mais plus stable et avec plus de garanties défensives qu'avant.
Hugo.
Oui, alors, vous parliez de Messi, le Barça plus solide, peut-être plus Messi dépendant, davantage Messi dépendant du côté du Real. Vous parliez de la force offensive des deux équipes, shérif, c'est Benzema, le buteur attitré désormais depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Il y a quand même, sans vouloir manquer de respect à Benzema, un monde, ne serait-ce qu'en termes statistiques entre les deux joueurs. Messi, il en est à 33 buts en 32 rencontres. Est-ce que le fait d'avoir Messi, tout simplement, ne donne pas, de fait, un avantage structurel au Barça, comme on dit?
Alors, avant qu'on réponde à cette question, écoutons l'un des Barcelonais, Clément Lenglet, justement, qui remplace Samuel Umtiti actuellement, défenseur, et qui évoque eh bien, le cas Benzema. Benzema, qu'il faut plus que respecter quand on est défenseur adverse.
C'est un joueur qui dézone beaucoup. Il est très bon techniquement et qui, dans la surface, est très très dangereux, qui enchaîne très vite. Donc, faut toujours être très vigilant et il suffit d'une seconde pour qu'il marque un but. Donc, c'est pas facile à défendre et en plus de ça, c'est un joueur qui sent le football, donc il sait où se déplacer et quand jaillir au bon moment. Donc, c'est un très très bon attaquant.
Alors Hugo évoquait cette Messi-dépendance, Dominique, mais peut-être que aussi Benzema, il a jamais, c'était la Cristiano-dépendance peut-être en son temps, et Benzema, on connaît peut-être, il a peut-être moins l'opportunité, c'est pas la même, ne serait-ce que personnalité, mais qui en ce moment est en train de montrer ce qu'il sait faire aussi dans les rangs du Real.
Ouais, il réalise une
on
super...
peut les comparer. Benzema,
non,
Messi.
Non, ils sont pas sur la même planète. J'adore Karim Benzema, mais c'est pas. Non, c'est pas pareil. Messi est un joueur qui va marquer l'histoire. Ah bah c'est l'atout offensif numéro un du Real Madrid pour les merengues.
Il a le brassard.
Tandis que Bale est un petit peu fâché ou que les gens sont fâchés avec Bale et que le troisième larron de l'attaque ne s'est pas imposé, c'est-à-dire qu'on cherche Isco, Asensio. Il y a Vinicius, mais bon, il a 18 ans, donc c'est compliqué de tout miser sur lui. Il repose médiatiquement les autres parce que l'attention est focalisée sur lui. Mais moi, dans un classico, je demande pas encore à Vinicius de faire la différence. Après, ça reste un des très bons jeunes qu'on a vu émerger ces dernières années.
Benzema, Messi, c'est un face-à-face, c'est les armes offensives de chacun, c'est ça?
Ouais, Benzema.
C'est sur eux qu'on compte.
Pour... Ouais, au match aller, Benzema était très bon. Donc c'est le même lui qui avait marqué. Non, bon, c'est pas la même dimension. On va être d'accord. Mais dans un duel comme ça de classico, ils sont à force égale. Même si Messi, de toute façon, on attend beaucoup plus de Messi. Et ça s'arrête là. Mais bon, c'est pour moi c'est armes égales. C'est ce soir, c'est.
Étienne, non. C'est pas armes égales.
Non, je vais pas être d'accord beaucoup aujourd'hui. Mais évidemment, enfin, vous l'avez dit de toute façon tous les deux. Donc là-dessus, on est d'accord. Entre Messi et Benzema, il n'y a pas photo quand même. Évidemment, ce sont pas des joueurs de la même dimension. Et Benzema a fait une très bonne saison, mais Benzema a besoin de son équipe pour jouer. Je veux dire, il fait bien jouer les autres aussi, etc. Il a ces qualités-là. Bon, Messi, on l'a vu, on l'a encore vu récemment. Il peut faire basculer un match à lui tout seul.
Mais Benzema aussi?
Non, moins quand même, moins dans l'histoire de la carrière de Benzema. C'est pas un joueur qui fait basculer les matchs. Et ça a évidemment pu lui arriver, heureusement, quelquefois. Mais si, quand on a marqué 50 triplés dans sa carrière et sur des matchs à haute intensité, forcément, on a un autre joueur.
Hugo.
Oui, juste préciser, c'est 20 buts pour Benzema cette saison, donc je le disais 33 pour Messi, bon 4 en 5 matchs.
Messi sera toujours devant de toute façon.
Pour Benzema en Coupe du Roi, 4 en 5 matchs, alors peut-être que...
En tout cas, il n'y a pas de crépuscule
pour le match de ce mercredi.
Il n'y a pas de crépuscule de Benzema, c'est un garçon qui est né en 87, donc qui commence qui a dépassé les 30 ans et qui...
32.
Voilà, et qui n'est pas en train de décliner, quoi, et qui vit ses meilleures années, qui a pas l'air de souffrir de son absence en équipe de France, de pas être champion du monde.
Quel brassard,
de l'affaire de la
sexuelle. Il nous dit à la une de France Football cette semaine que...
Qui kiffe sa life, non? non, voilà. Comme ça.
C'est exactement ça.
Ah ben voilà.
Il kiffe sa life. On parlait de ces armes fatales que chacune équipe a. Et pour ce qui est des lieutenants qui sont pas très au top en ce moment, alors on a Gareth Bale et puis on a Luis Suarez. Luis Suarez, il est moins en réussite en ce moment, Étienne.
Oui, il est clairement un tout petit peu déclinant. Donc peut-être il va nous faire mentir ce soir et marquer deux buts, éliminer le Real Madrid. Mais c'est vrai que sur la durée, il est un ton en dessous. Je veux dire, c'est plus le Luis Suarez qu'on a connu au Barça, qu'on a connu à Liverpool, qui était un des 3-4 meilleurs joueurs du monde à ce moment-là.
Qui marquait à tous les matchs, pratiquement.
Voilà, et qui avait une puissance physique absolument incroyable. Il y a une petite baisse physique dans son jeu. Qui manque de réussite aussi donc dans la finition. Voilà, c'est vrai que c'est un dossier sur lequel le Barça, pour l'avenir, va devoir se pencher.
Mbappé, par exemple.
Mbappé, t'as pas Barça? Dit qu'il allait rester toute sa carrière au PSG comme Neymar?
Non, j'ai pas dit que Neymar restera au PSG.
Il y a les deux Croates qui sortent de Coupe du Monde des deux côtés. Rakitic, Modric.
Et Gareth Bale face à ça, parce que Gareth Bale finalement aurait dû peut-être, en tout cas selon les souhaits, par exemple de celui qu'il a acheté, Florentino Pérez, il aurait bien voulu que ce soit lui enfin place nette à la place de Cristiano Ronaldo, et c'est un rôle qu'il n'assume pas ou qu'il ne veut pas ou qu'il ne peut pas assumer.
Il y a des grandes réussites avec Bale au Real Madrid, notamment finale des champions,
oui,
récemment.
Quand il rentre et qu'il marque.
Il a marqué des buts importants,
mais l'histoire, elle est un peu contrariée quand même. Il y avait, avec Benitez, il avait voulu avoir le pouvoir, être en numéro 10, au détriment de Cristiano Ronaldo. Ça n'a pas duré très longtemps. Benitez, il s'est fait quand même licencier. Et puis, Cristiano Ronaldo, il n'a pas trop compris que le club donne la faveur à Bale. Aujourd'hui, c'est un des joueurs.
On se demandait s'il
n'y
avait pas une inimitié
pour
avec Zidane. Et finalement, on se rend compte qu'avec Solari,
les
entraîneurs
avec l'hygiène de vie, parce qu'il est tout le temps blessé. Donc c'est surtout ça, c'est Bale. Moi j'aimerais le voir sur un terrain tout le temps. Or on n'a pas profité autant qu'on aurait voulu. Il est en pointillé. Et puis c'est un joueur qu'on cite régulièrement pour si Chelsea laisse partir Hazard, même si là ils sont interdits de recrutement, donc ça paraît compliqué. Mais si Hazard vient au Real Madrid, c'est quand même souvent à la place de Gareth Bale.
Hugo.
Oui, pour situer un peu le contexte, Gareth Bale qui est un petit peu explosif, donc il ne parle pas anglais, il ne s'intéresse qu'au golf et pas au football. Il parle pas espagnol, pardon.
Il parle assez mal anglais, moi. J'ai essayé d'échanger avec lui, il a un accent terrible.
Et avec un accent gallois.
L'accent gallois, ouais. Voilà.
Pour nous, ça peut être compliqué. Bref, il ne parle pas espagnol, il ne s'intéresse pas au football, il ne participe pas au dîner du Real. C'est en tout cas ce qu'on lit ces derniers jours. Il n'est pratiquement plus titulaire ces derniers temps.
Et il préfère regarder du golf.
Ça lui arrive quand même de marquer quand il sort du banc. Il en a 13 buts hein, tout de même cette saison, 5 passes décisives, c'est pas
négligeable.
Ça reste intéressant. Et il a marqué le week-end dernier en entrant en cours de jeu face à Levante, un penalty. Et là le malaise Bale a vraiment été exposé au grand jour, puisque au moment de célébrer son but, c'est un petit peu tout l'inverse qui s'est passé. C'est plutôt qu'un moment de joie, on a eu le droit à un moment un peu de crispation. Il a même repoussé assez violemment son coéquipier Lucas Vázquez, et c'est là vraiment qu'on a mis le doigt dans les médias sur le malaise Gareth Bale au sein du Real Madrid.
Caprice de star, Étienne ?
Non, je pense que c'est un malaise persistant. Je pense que Gareth Bale, il n'aime pas le football comme on doit l'aimer quand on a envie d'être un des meilleurs joueurs du monde. C'est l'anti-Cristiano Ronaldo, c'est l'anti-Kylian Mbappé, des joueurs qui ne pensent qu'à ça, qui affichent des t-shirts avec leur nombre de buts à l'entraînement. Bah, Gareth Bale, on a un sentiment, c'est juste le contraire. Parce que le potentiel, il l'a, mais il n'en a pas tant envie que ça, et comme disait Dominique, sûrement donc sur la partie invisible de sa préparation, ça doit quand même pas être terrible, parce que si on juge sur la durée, il y a quand même énormément de blessures, il est quand même disponible assez peu.
Ouais, sur 6 saisons, il a fait assez peu de matchs.
C'est pas un fiasco non plus. C'est pas une grande affaire pour le Real, mais c'est pas un fiasco.
Ouais, il le
revendront. Il a marqué des buts importants, donc il y a les buts qui comptent. Et Ligue des Champions.
Et on évoquait pour terminer ces deux entraîneurs. Les deux entraîneurs sont sur aussi des dynamiques un peu différentes. On a Santiago Solari, l'Argentin, arrivé en milieu de saison un peu par la petite porte. Il vient de la, c'est pas la Masia, là c'est la Castilla. Il vient de l'équipe réserve. Il n'a pas encore été évidemment confirmé. Peut-être que Florentino Pérez aimera un nom plus ronflant. Alors qu'en face, on a Ernesto Valverde. Son contrat vient d'être renouvelé. Alors, il n'a pas le style 100% barcelonais. Et en même temps, il fait du bon travail, selon vous, Étienne, Ernesto Valverde.
Il fait incontestablement du bon travail. Maintenant, c'est peut-être un tout petit peu trop du travail quand on est barcelonais et qu'on aime le jeu, donc à une touche de balle, etc. Le jeu du Barça a changé, on l'a dit tout à l'heure. L'équipe est peut-être plus équilibrée, plus de sécurité défensive, mais il y a quand même moins de brio dans ce qu'on voit. Mais bon, c'est une équipe qui gagne, donc à partir du moment où il gagne des titres, il sera l'entraîneur du Barça.
Dominique, Solari, ouais, Valverde.
C'est peut-être secondaire, mais c'est évidemment, médiatiquement, ça supporte pas la comparaison avec Mourinho ou Guardiola. Hein. On est dépendu de la cour, ou avec Zidane. Là, on est avec des deux seconds couteaux, des bancs de touche européens, mais qui sont sur les deux bancs de touche peut-être les plus prisés au monde. Donc c'est intéressant. C'est évidemment des techniciens qui s'inscrivent dans le labeur plus que dans le show-off. Bon, bah ça a certaines vertus aussi. On n'est pas obligé que de faire du marketing parfois.
Ça enlève un peu du spectacle.
Ouais, non, mais c'est ce qu'il y a.
Ça permet de se concentrer sur le jeu, sur les compositions d'équipe, sur les joueurs. C'est pas plus mal aussi. Moi, Mourinho, parfois, je suis un peu fatigué.
Vous avez vu, il veut un club où on l'aime.
Qu'est-ce qu'il veut ?
Il voudrait un club où on va l'aimer. Mm-hmm. Et où il n'y a pas de conflit.
Mais que t'arrêtes de le critiquer, il a dit aussi.
C'est vrai ?
Oui.
Comme disait Mitterrand, pour être aimé, il faut être aimable. Non, ça c'est... François, oui. Frédéric a fait des films.
Oui, c'est pour ça.
Mais c'est deux entraîneurs pour l'instant qui collent avec ce Barça de maintenant et ce Real de maintenant.
C'est-à-dire des équipes de, c'est des moments de transition.
C'est des moments de transition de toute façon.
On le voit dans l'effectif, donc on le voit seulement.
Pas sûr que je suis sur un genre de transition.
Neymar et c'est du déclin flamboyant, mais c'est quand même, on est plus proche de la.
Pas mal. Voilà. Déclin flamboyant.
Du déclin flamboyant. Du déclin quand même, de toute façon. Moi, quand je regarde.
Déclin de l'Empire barcelonais.
Moi, quand je regarde Busquets, ce que j'adore, c'est pas le Busquets il y a quelques années. Quand je vois Rakitic et Modric, c'est pas les Rakitic et Modric de ces dernières années. Mais c'est très bon, c'est très fort. Il y a pas de problème.
Mais...
Donc voilà. Et en plus, ces deux entraîneurs, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils dépassionnent un peu le classico. Et...
Oui. Ouais, en tout cas,
tu penses qu'on a un entraîneur pour le déclin de ces joueurs-là? Parce que comme ils ont dit, tiens, Busquets, c'est un qui déclin, on va leur mettre Valverde parce que.
On est en transition.
On va leur mettre un super entraîneur.
On est en transition. On est en transition. Et à l'intérieur de cette transition, il y a du déclin flamboyant. Ça reste bien.
C'est pas la même chose quand même pour le Real et pour le Barça, parce que autant Solari est un intérimaire, ça n'a pas de doute là-dessus, mais Valverde, c'est un entraîneur qui a été choisi. C'est un entraîneur qui a des résultats et je pense qu'il peut durer à Barcelone.
Et pour une équipe qui va bientôt changer aussi.
Pour aller dans le sens de la transition, Valverde, à son arrivée, il a géré l'après Neymar, il gère l'après Iniesta, et Solari, il gère évidemment l'après Cristiano Ronaldo. Donc on peut pas dire que le Real et le Barça, en termes de qualité d'effectif, vivent leurs meilleures heures. Donc la transition, elle vient aussi peut-être de là.
Et en même temps, on incorpore des petits nouveaux des deux côtés.
Exactement.
Avec les Dembélé et puis les Vinicius.
Eh bien, on verra ça ce soir, donc ce classico Real Madrid, FC Barcelone. Rendez-vous 21h sur la pelouse de Santiago Bernabéu, 21h heure de Paris donc, et sur fond de déclin flamboyant.
Personnellement, je crois qu'il y avait des choses positives aussi, même si je n'ai pas marqué, et ça c'est le plus important pour moi. Bien sûr, le soutien c'est important pour chaque joueur.
Les supporters du Paris Saint-Germain qui chantent en chœur pour Choupo-Moting, c'est
peut-être
quand même
que c'est du premier degré. Hein, je sais pas.
Ça vous fait sourire. Hein,
C'est du premier degré. Hein, c'est une vraie affection. Il ne faut pas y voir de la moquerie. Non, absolument pas.
Non, c'est vrai que les gens aiment le capitaine du Cameroun, qui n'est pas forcément fait pour les standards techniques du Paris Saint-Germain, mais qui a une combativité, un état d'esprit irréprochable, qui est adoré par ses partenaires et qui donne tout. Alors, il donne ce qu'il a, c'est-à-dire pas grand-chose, mais... Mais c'est une belle histoire.
Choupo-Moting qui a contribué hier soir par une passe décisive à la qualification de Paris en demi-finale de la Coupe de France. Ça vous surprend que le Parc des Princes se mette à chanter le nom de Choupo-Moting, Étienne?
La vérité, oui.
Oui, hein.
Oui, franchement.
Hier soir, on était surpris.
Il y a quelque chose d'irrationnel dans l'affection entre les gens en général et entre un public et un joueur en particulier, parce qu'on n'aurait pas pu imaginer ça au début de la saison, les premiers matchs. match avec les ratés de Choupo-Moting.
Son transfert était même surprenant.
Oui, et puis d'ailleurs, finalement, il s'est pas tant amélioré que ça, techniquement, ni dans ses statistiques avec le Paris Saint-Germain. Il s'est passé quelque chose assez irrationnel. Les gens ont senti que c'était un joueur qui d'abord donnait tout, mais aussi qui faisait sans doute du bien à cet effectif, qui donnait un peu d'humanité à ce club. Et voilà, il s'est passé quelque chose. Et vraiment, on sentait le public du Parc qui avait qu'une envie, au-delà de la victoire, c'est que Choupo marque.
Ouais. Exactement, ils l'ont encouragé.
Non, mais à l'heure du foot business, lui, c'est le gars qui est content d'être remplaçant, qui jamais un mot plus haut que l'autre, et qui se contente de son statut. Alors, dans une équipe de stars où il y a des égos surdimensionnés, ça détonne un peu.
Hugo ?
Oui, j'imagine qu'il est pas trop mal payé, puis en plus il vit dans une
jolie
ville.
Pas si bien que ça, non.
Bon, en tout cas, il vit dans une jolie ville. J'ai lu qu'il aimait beaucoup la vie parisienne.
Il était cambriolé deux fois, donc il...
Ah, ok.
C'est moins de rien qu'il avait.
Le pauvre. Quelques statistiques pour Choupo-Moting. Au pluriel, on peut utiliser le singulier, ça fait un but, une passe décisive.
Ça fait 22 matchs qu'il a pas marqué, je crois.
Hein. Ouais, un but, une passe décisive, exactement, en 21 matchs tout court. Donc bon.
Il a quand même souvent été remplaçant, c'est pas 21 matchs comme
ça. C'est vrai.
Il rentre des fois dans les 5 dernières minutes. En tout cas, grâce à sa victoire, on va dire quand même ample, facile aussi, 3-0 face à Dijon. Eh bien, Dijon, 9e équipe de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est donc en demi-finale. Ce qui nous a semblé intéressant, justement, et c'est pour ça qu'on parle de Choupo-Moting d'abord, mais c'est qu'en l'absence de Neymar, de Cavani, Mbappé qui avait voulu rester sur le banc, le PSG a donc imposé son style hier, son rythme aussi, sans ces relâchements coupables qu'on lui a parfois reprochés. Et on pense tous, nous, mais ils y pensaient apparemment sur la pelouse ici aussi, hier aussi, l'élimination par Guingamp en Coupe de la Ligue. Alors c'était dans la tête des joueurs et de l'entraîneur, Thomas Tuchel, content finalement de voir les complicités qui se créent sur le terrain, quels que soient les hommes choisis, donc les hommes associés, les hommes dont il dispose. Hier soir c'était Di Maria et Draxler, avec évidemment l'Argentin comme finisseur.
Comme je dis beaucoup de fois, c'est un cadeau. Un cadeau, et il montre sa qualité chaque jour, il montre sa mentalité chaque jour, il est super fiable, il est top professionnel, très très compétitif. Avec lui, tu peux gagner parce qu'il est le Choupo gagné, le Choupo marqué. Et c'est bien. On manque Eddie, on manque Ney. Il est toujours là. Il a fait repos. Le dernier match, on peut voir qu'il était bien pour lui.
Thomas Tuchel, dressant évidemment quelques éloges à Di Maria. C'est vrai que on peut se dire qu'il a le choix sur le banc désormais, cet entraîneur, même quand c'est star. Alors, ce n'était que Dijon comme adversaire, mais on a l'impression que lui, l'homme des schémas tactiques, c'est aussi l'homme des associations tactiques.
Oui, ce qui valide ce que vous dites, c'est la prestation à Manchester, parce que battre Montpellier, Nîmes, Saint-Etienne, Dijon en Bordeaux. Championnat ou en coupe. Pour moi, ça n'a pas énormément de signification quand vous avez des joueurs de ce talent-là. Draxler, il est quand même champion du monde. On parle souvent des trois champions du monde français. Il y a aussi Buffon, il y a aussi Draxler. Il y a 5 champions du monde dans l'effectif. Donc voilà, Choupo-Moting contre une équipe de Ligue 1, il me semble qu'il a encore le niveau pour y arriver. Même Moussa Diaby, qui lui a un peu disparu, a fait une première partie de saison fantastique. Il a 19 ans, il est issu du centre de formation. Donc effectivement, il y a quand même suffisamment de talent pour, en tout cas sur la scène nationale, s'imposer, être au rendez-vous des compétitions. C'est surtout le match à Manchester sans Cavani et sans Neymar qui a prouvé que Tuchel savait trouver des solutions à l'interne.
Il sait trouver des solutions pour un rendez-vous de Ligue des Champions, mais finalement aussi, il arrive à les motiver sur, entre guillemets, le quotidien, qui peut parfois leur paraître un peu trop tendre, shérif.
Oui, bon, c'est prouvé, certifié. Il les tient, il ne les lâche pas, il fait beaucoup confiance. Différentes façons, par exemple.
Di Maria, c'était depuis le début de saison. On se souvient quand il disait j'ai 4 attaquants.
Ah, mais Di Maria, c'est la saison, là. C'est sa saison, là. La deuxième partie de championnat, en général, c'est là qui revient fort. Non, disons que plus généralement, quand les Qataris sont arrivés à Paris, il y a deux constantes dans le jeu parisien. Beaucoup de bons techniciens, et ça sert énormément pour ressortir un ballon, pour le garder et tout. Bon, on parlait de Draxler, évidemment, et Di Maria, mais on peut parler de tous les autres. Thiago Motta, il y a encore quelques années. Des joueurs qui ont du ballon et un jeu porté vers l'offensive. Quand un entraîneur arrive, je dirais qu'il y a pratiquement 50% du boulot qui est fait. Après, le reste, il y a 50% du boulot qui est à faire.
Mais il y en a qui n'y arrivaient pas si bien.
Il y en a qui n'y arrivaient pas, mais c'est depuis que les Qataris sont là, avec n'importe quel entraîneur, de toute façon, il y avait du jeu, c'est porté vers l'offensive. On s'ennuie jamais avec le PSG, ça peut être médiocre au niveau de l'intention, mais au niveau de la qualité de jeu, elle est là. Donc on la retrouve, et c'est ce qu'on voit un peu hier soir avec... ou alors ces dernières semaines, des fois avec des équipes bis, mais de toute façon, il y a un niveau minimum qui fait que le résultat va être là, et ça aide aussi en Ligue des Champions. Et là, tu parlais des champions du monde, ils sont là, et c'est bien. Le seul déficit, c'est le déficit d'expérience de Ligue des Champions, parce que là, pour le coup, Paris n'a pas beaucoup de joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions. Ça, c'est un problème. Il y a Neymar, il y a qui d'autre ?
Di Maria.
Di Maria. Et il y en a un troisième, bon, Thiago Motta, mais Thiago Motta ne joue plus. Et
Maxwell non
et
plus.
C'est tout.
Et Maxwell non plus ne joue plus.
Et Daniel Alves, pardon, excusez-moi, il y a trois joueurs. Ouais, ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait pas beaucoup quand on veut gagner la Ligue des Champions.
Etienne, c'est une équipe qui a du banc, on peut dire, et du banc de qualité. Le Paris Saint-Germain qui a des seconds couteaux qui finalement sont enviables par beaucoup d'équipes.
Je sais pas si c'est la qualité numéro un de l'effectif du Paris Saint-Germain cette saison, parce que quand on a vu le match à Manchester et on regardait le banc du Paris Saint-Germain, il faisait plutôt peur. C'était un banc avec, pour le coup, des seconds couteaux, des très jeunes joueurs sans aucune expérience.
Mais qu'il a aujourd'hui, réussi à faire rentrer, en plus.
Un peu contraint et forcé, le Paris Saint-Germain a un effectif, on va dire, plus limité en nombre. Maintenant, Thomas Tuchel, il l'optimise complètement parce que il a d'abord fait confiance à des joueurs donc qui étaient un petit peu compensés en déclin comme André Di Maria. Je pense que Dominique pensait que Di Maria donc sortirait pour les matchs de Ligue des Champions donc et qu'il ne jouerait jamais avec les quatre de devant. Est-ce que tu maintiens donc ce souhait-là, parce que finalement on se rend compte que c'est une vraie réussite, et quand on regarde individuellement sur les joueurs du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de réussite de Thomas Tuchel parce que il a réussi donc à attendrir Neymar et en faire qu'il ait vraiment envie de jouer au Paris Saint-Germain. Et on va au bout du bout et on voit que Choupo-Moting donne tout, c'est-à-dire qu'il y a une vraie réussite sur l'effectif qu'il a. Mais l'effectif, il a des failles quand même. Aujourd'hui, on se pose quand même toujours la question pour les matchs de Ligue des Champions, qui va être associé à Verratti au milieu de terrain. Évidemment, ça peut être Marquinhos, mais s'il y a des suspendus, des blessés, ce sera un problème.
Dominique, est-ce que Paredes est une bonne surprise ? On a vu hier son coup franc qui était plutôt pas mal.
Pour moi, on peut pas vraiment
le juger. Ils voulaient acheter un 6, ils ont pris un 8.
Ouais, non, bien entendu.
Pour l'instant, on peut pas vraiment le juger. Bon, ça me paraît horriblement cher, mais ça doit être le football, 47 millions d'euros. On va attendre un petit peu pour l'instant. Je trouve qu'il reste dans sa zone de confort. Il fait des passes assez simples, il prend pas beaucoup de risques. Hier, peut-être que c'était son meilleur match ou son moins mauvais depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Parce qu'en face, notamment en première période, les Dijonais ont été vraiment absents des combats, des débats. Donc, moi, pareil. Pour l'instant, je peux pas le juger, pour pas vous dire si c'est un joueur. Il a un super pied, mais ça suffit pas.
En tout cas, en pensant à ce vrai banc, on pense à l'attaque, mais on pense aussi à l'arrière. Il y a évidemment toujours ce capitaine Thiago Silva qui est très présent, mais il y a Prenel Kimpembe, champion du monde, qui n'est pas toujours titulaire, mais qui joue de plus en plus. Hier soir, Kimpembe justement jouait son 100e match sous le maillot du Paris Saint-Germain.
C'est une belle soirée avec la victoire et la qualification au bout. Pour ma 100e, c'est encore plus beau et voilà, je suis fier ce soir d'avoir pu faire mon 100e match sous le maillot parisien. Et puis à la maison, c'est beau et voilà, pour la 100e dans son club de cœur, et ça fait 15 ans que je suis là. Et donc voilà, on est très très fiers et très très contents.
Tu vas aller jusqu'où, Presnel ?
Encore 600. 600.
Encore 600 matchs. Vous voyez, lui aussi, il veut rester au Paris Saint-Germain.
Depuis que Dominique leur a parlé, ils veulent tous rester.
Ils veulent évidemment tous
rester. Chez les cordons.
C'est 69 matchs pour ce qui est du championnat. 11 matchs de Ligue des Champions. Ensuite, 11 de Coupe de France, 8 de Coupe de la Ligue. Et puis
moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est que c'est son premier match de Ligue des Champions. C'était face à Messi, Suarez.
On s'en souvient.
Neymar,
le 4-0.
Le 4-0. Et c'est un soir où il a muselé, lui tout seul, la MSN. Et non, il avait surtout Messi dans sa zone et il avait fait un match fantastique. Et j'avais
dit, c'est un bon point pour le PSG qu'il l'a formé.
Qu'ils n'avaient aucune chance avec Kimpembe titulaire. Oui. Alors, quelle est la question ?
Vous êtes repenti depuis ?
Non, mais je vous le dis parce que je ne l'arrêtais pas de le répéter. Kimpembe joue, ils n'ont aucune chance, 4-0.
Ouais.
Un homme qui sent le football.
Et en plus, Kimpembe qui a été royal et qu'on retrouve en équipe de France.
C'est celui qu'on n'attend pas qui fait un match incroyable.
C'est aussi une illustration de ce centre de formation qu'a le PSG. On sait que la région Île-de-France est pourvoyeuse de grands joueurs.
C'est mieux que Sako. Quand Sako est parti pour laisser la place au défenseur brésilien Alex, qui était là, Thiago Silva semblait vouloir jouer plus avec Alex qu'avec Sako. On s'est dit, tiens, c'est embêtant pour l'image du Paris Saint-Germain qui laisse partir un futur capitaine. Enfin, il l'a été, mais c'était Thiago Silva le capitaine. On s'est dit, voilà. Et puis finalement, arrive Kimpembe quelques années après.
Il a mis tout le monde d'accord.
Pardon ?
Il a mis tout le monde d'accord.
Il a mis tout le monde d'accord et qui est plus fort et qui joue beaucoup parce que, comme Marquinhos, comme l'a dit, Etienne joue désormais au milieu dans les gros matchs. En fait, il reste plus que lui pour jouer en défense avec Thiago Silva, sachant que Kerrer joue plutôt à droite.
Mmh. Étienne.
Oui, de la réussite de Kimpembe, c'est qu'il parvient aussi à jouer dans plusieurs systèmes de jeu, ce qui n'est pas évident pour un jeune défenseur tel que lui, parce que Thomas Tuchel les fait jouer à 3 derrière, parfois à 4, et c'est d'ailleurs une des immenses réussites de Thomas Tuchel, c'est qu'on ne se pose même plus la question de savoir quel va être le système de jeu défensif du Paris Saint-Germain. On se dit que finalement, ça fonctionne dans les deux systèmes, et les joueurs l'ont accepté et savent l'appliquer, c'est quand même pas rien.
En tout cas, à vous entendre, évidemment, la meilleure recrue, c'est sûrement Thomas Tuchel, hein, arrive à créer une cohésion.
Même là-dessus, Dominique et moi sommes d'accord, imaginez. L'exploit de Thomas Tuchel,
ça saute aux yeux.
Ouais, c'est vrai, ça saute aux yeux de tout le monde. Et les voilà donc en demi-finale de la Coupe de France. Ils connaîtront ce soir leur adversaire.
Au cœur de la Cité des Sacres et du Champagne, nous aimons vibrer.
C'est le moment, Eti. C'est ton moment de briller.
Nous aimons supporter. Le football est dans notre ADN.
Alors, ce football qui est dans notre ADN, comme dit la bande-annonce, eh bien, c'est le football féminin, hein, ne confondons pas avec le football masculin. Le pays des sacres, c'est évidemment Reims, la ville de Reims, qui recevra un des groupes de la Coupe du Monde féminine. Et Eti, c'est le petit poussin, on va dire, la mascotte de cette compétition. Le compte à rebours a commencé, puisque dans 100 jours, précisément, sera donné le coup d'envoi. Ça sera au Parc des Princes, France-Corée du Sud, premier match donc. Il y a un certain engouement, on voit les chiffres qui sont sortis aujourd'hui, les billets se vendent très bien, on a eu 500 000 billets déjà vendus et surtout essentiellement à l'étranger. Étienne Moati, c'est une surprise pour vous que finalement il y ait une adhésion, c'est la première fois qu'il y aura 24 équipes dans une compétition. L'année dernière on a eu la Coupe du Monde masculine, on peut se dire bon les gens pendant 3 ans croient qu'ils peuvent se reposer. Non, il y a une autre compétition de la FIFA, mais finalement ce foot féminin, il y a une vraie adhésion.
Il y a une adhésion de plus en plus grande.
Est-ce que tu as été surpris ?
J'étais sur les derniers temps, non, pas tant surpris que ça, parce que les institutions, qu'elles soient nationales comme la Fédération Française de Foot ou internationales comme la FIFA ou l'UEFA, misent aujourd'hui énormément sur le football féminin, tout simplement parce que c'est là où il y a des voies pour progresser, pour augmenter le nombre de licenciés, pour avoir des ressources supplémentaires. Évidemment, je pense que sur le football masculin, on est à peu près au taquet, que ce soit donc au nombre de licenciés, que ce soit aux recettes générées par le football. On va pas aller beaucoup, beaucoup plus loin sur le football féminin. Et tout est à faire. Et il y a déjà aujourd'hui énormément de succès. Si les billets sont vendus à l'étranger, ça veut dire que c'est une vraie Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y a
la moitié de ces 500 000 billets ont été vendus à l'étranger.
Voir les pays. Hein.
Mais ça me surprend pas, moi, ça. Ouais. Parce que culturellement, par exemple, les États-Unis qui ont acheté un quart des billets, c'est un pays qui est fou de
football féminin.
Je suis plus surpris que les Français aient acheté des places, parce qu'on dit souvent il y a la crise en France, que les Français ont d'autres priorités. Il y a des mouvements sociaux chaque samedi.
Mais les filles font le plein, l'équipe de France.
Et, hein. Oui, mais c'est quand même cher fermé. Pour aller en famille, dans des stades et tout ça. Et finalement, on aperçoit que les Français...
Sur cette Coupe du Monde, c'est pas très cher. Non, donc il y a une volonté d'avoir des prix de place assez
modernes. Oui, et c'était aussi parce que c'était pas si simple de remplir les stades avec du football féminin. Ça, Noël Le Graët, au moment où les prix et la billetterie avaient été lancés il y a quelques mois, l'avait dit. Et c'est aussi pour ça que des enceintes, on parle de Reims et son enceinte, qui fait environ 20 000 places, ont été choisies. Donc il y a quand même... En France, du travail à faire et la Coupe du Monde permet de parcourir une partie du chemin, bien sûr.
Tout découle des affluences dans les stades, parce que à partir du moment où vous remplissez le stade, on va dire que le business derrière peut s'enclencher. Vous avez un produit quand vous le regardez où vous y croyez. Donc évidemment qu'aujourd'hui, la stratégie, on va dire commerciale entre guillemets, qui a été prise par le comité d'organisation est la bonne. C'est-à-dire remplissons le stade avec des billets.
Remplissons des petits stades.
Avec des billets pas trop cher, et à partir de là, évidemment, on va convaincre le monde entier qu'il se passe quelque chose.
Parce que là aussi, si on compare avec la Coupe du Monde, c'est des places à 25 euros. Donc,
c'est excellente idée.
Ouais, effectivement.
Pour faire démarrer le foot féminin, c'est comme ça.
Mais à
c'est...
noter quand même qu'en France, hein, la féminisation du football, c'est plus 90% de licenciés féminines entre 2010 et 2016. Donc c'est énorme. Et demain, l'équipe de France joue contre l'Allemagne. Ça sera à Laval. Et c'est un match où il n'y a pratiquement plus de places à vendre. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci trop vite. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission, à la réalisation. Il y avait Laurent Salerno et on vous dit à demain.